RMC Running,
Amin Mohamed.
Bonjour à tous et bienvenue dans RMC Running, le podcast de RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied. Ça y est, on est dimanche matin.
Oh non! Oh non, me dis pas que c'est le dernier podcast, Amine.
C'est l'avant-dernier podcast.
Ah bon,
je te rassure.
Me rassure.
Et là, on va débriefer les courses de l'UTMB, les 100 miles.
Ah là, ça va être intéressant.
Avec une performance exceptionnelle de Blandine Lirondelle, justement, qui a remporté la course.
Exceptionnel, je sais pas, c'est même au-dessus d'exceptionnel. Il faudrait trouver des qualificatifs pour ça.
Incroyable. Blandine Lirondelle, donc, qui rentre dans l'histoire avec cette victoire sur le format 100 miles. Après avoir remporté déjà l'OCC et l'ACC, elle fait le grand triplé ici à l'OKUTMB Mont Blanc. On va débriefer cette course avec elle parce qu'on l'aura dit. Elle n'a pas été de tout repos cette course.
Ah non.
Pour Blandine.
Ah, nous a fait quelques.
Elle nous a fait rêver.
Elle nous a fait rêver.
J'ai eu des frissons.
Tout le monde a eu des frissons.
Et j'ai même vu des habitants ici de Chamonix verser des larmes également.
Parce qu'il y aura plein d'enfants qui vont s'appeler Blandine dans les 2-3 prochains mois. Il faudra surveiller ça. Il y aura un pic.
Blandine est avec nous en plateau. Salut Blandine.
Salut les gars. Bah, merci de m'accueillir ici.
On remercie évidemment Oka d'avoir. D'avoir été partenaire donc, de cet épisode. C'est parti pour un débrief avec Blandine Lirondelle qui est à notre côté. Enfilez vos baskets, attachez vos lacets, c'est l'heure d'un nouveau débrief. Franchement, bravo Blandine pour cette belle victoire à l'OKUTMB Mont Blanc sur le format 100 miles. On a tout vécu dans cette course, on t'a vu avoir 40 minutes d'avance, on t'a vu douter, on t'a vu presque pleurer. Et finalement... jamais vraiment douté, j'ai envie de dire, parce que tu as su t'accrocher et finir cette course. Mais avant de parler des péripéties, est-ce que tu peux me raconter ce dernier kilomètre à Chamonix où tu as été accompagné par un nombre d'habitants exceptionnels, des cris. On t'a vu courir ici en larmes. Raconte-moi ce dernier kilomètre.
Bah effectivement, habituellement, c'est le dernier kilomètre qui est rempli de gens, de part et d'autre, du chemin. Mais là, ce qui m'a le plus étonné, c'est que ça commençait même au bout de 3 kilomètres avant l'arrivée. Enfin, déjà, la Flégère, c'était un truc de dingue. J'avais jamais vu autant de monde à la Flégère. Et c'est rigolo parce que j'avais justement dit à des proches, hein, souvent, la Flégère, c'est un peu glauque, nous, parce qu'il n'y a plus personne. Tout le monde va à l'arrivée des premiers hommes. Et là, c'était incroyable le monde qu'il y avait à la Flégère. Et vraiment, à partir de la traversée de route, les gens commençaient déjà entre guillemets à s'agglutiner et ouais ils m'ont porté. J'étais vraiment au bout de moi-même et j'avais qu'une envie, c'était de faire Chamonix, la traversée de Chamonix en marchant, mais finalement j'ai réussi un peu à trottiner comme je le pouvais. C'était j'ai vraiment pas de mots, enfin les émotions étaient tellement décuplées et de voir cette effervescence et cet engouement, ça, ouais, c'était énormément de fierté et c'était trop pour mon petit cœur.
La Flégère, justement, ça a été un moment très spécial parce que quand tu arrives au sommet, on te voit dire, justement, en lisant sur tes lèvres, je sais pas si je peux y arriver.
Ah ouais, à la Flégère, bon, la montée, on pousse sur les bâtons, on marche. En vrai, voilà, chaque pas c'est faisable et vraiment j'avais une armée derrière moi. Mais arriver tout en haut, la descente, quand on fait de l'ultra et qu'on a fait beaucoup d'excentrique et qu'on a fait 10 000 mètres de dénivelé négatif, parfois la descente peut être très 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 compliquée. Et je suis arrivée en haut et j'étais vraiment... Enfin, je pense que je me suis jamais mis dans des états pareils. Alors à chaque fois, vous allez penser que je dis la même chose. mais là, c'est juste que j'avais... peut-être que la perception de cette difficulté, de cette douleur était un peu moindre parce que je cherchais la première place, alors que d'autres fois je suis allée au bout de mon effort mais pour peut-être pas une première place, donc je la ressentais un peu plus, cette douleur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux
bien
dire
sûr.
Mais c'est vrai que là je suis vraiment allée loin et arrivée en haut, je me disais mais comment je vais faire pour faire, parce que on a l'impression que c'est la fin, il y a quand même 7 km de descente et les descentes c'est pas ce qu'on préfère le plus,
oui,
qu'on fait de l'ultra,
surtout après 163 bornes,
170 bornes,
ouais, 170 bornes
et 10 000 de dénivelé négatif. Donc je suis arrivée en haut, tout le monde me dit ça y est c'est la fin, mais moi je me dis non, enfin vous vous rendez pas compte, 7 km 45 minutes et c'est pour ça, ouais, je dis je sais pas si je vais y arriver. Et bon, j'ai trottiné comme je pouvais. Je ne sais pas si vous vouliez parler des péripéties qui se sont passées pendant cette descente.
On va en parler justement. Ouais. Mais avant de parler de ça, moi je voulais accentuer le fait que à la Flégère, il y avait un monde exceptionnel.
C'était
on t'a senti même porté à quelques moments. Les gens.
Même je me disais mais elle doit être gênée, c'est pas possible parce que les. Enfin, il y avait tellement de monde autour de toi. Je me suis là peut-être qu'elle veut être juste dans sa bulle, être concentrée sur elle-même. Je me posais la question justement.
Alors oui, mais j'ai réussi en fait à rester dans ma bulle. Alors j'étais un peu gênée parce que souvent j'aime bien échanger. Je me dis les gens ils sont montés
sans télécabine
et je leur donnais rien en échange. Donc j'étais un peu gênée, mais par contre j'étais vraiment dans ma bulle parce que de toute façon j'arrivais à, j'avais plus aucune force. Enfin, vraiment la seule la seule énergie que j'avais, c'était juste pour essayer de pousser sur mes bras et mes jambes. Mmh. Mais alors, même plus d'énergie pour sourire, pour dire un mot. J'étais vraiment tête baissée dans mon truc. Mais je pense que les gens l'ont compris. Ça me dérangeait pas. C'est vrai que, bon, il y a des moments où on marchait sur mes bâtons, donc j'étais un petit peu embêtée. Mais je peux pas en vouloir à toutes ces personnes qui font le déplacement et qui sont... C'est ça, moi je
c'est eux qui
ça...
t'ont porté aussi à un moment donné.
Je trouvais ça incroyable. Et ouais, c'est vrai que j'étais tête baissée. Et puis à un moment, je lève la tête. Et avant de. Enfin, juste en dessous du téléphérique de la Flégère, il y a des petits serpentins, enfin une piste de ski qui fait un S. Et là, je vois des gens comme ça, à la file indienne, qui dessinent ce S. Et il devait y avoir des centaines de personnes. J'ai été impressionnée, donc là je lève la tête, je vois ça, alors que dans mes souvenirs, comme je vous disais, c'est souvent un peu triste et glauque, et là j'ai pas pu m'empêcher de pleurer en me disant waouh, c'est dingue en fait ça, ce qui se passe. Hein.
Ah, ils sont tous restés pour toi en plus, hein.
Ouais.
C'est magnifique. Parlons un peu des péripéties de cette course. Tout semblait bien jusqu'à samedi midi, on se disait que tout roule pour Blandine, elle a 40 minutes d'avance.
Déjà, au départ, il y avait quand même un petit... Je sais pas si c'était... Tu avais quand même une petite gêne avant de partir.
Oui, alors, ouais. C'est pour ça que je pense que je suis allée vraiment sans pression, sans objectif. Parce qu'effectivement, cette année, j'ai un petit peu bricolé, ouais. Avec déjà une bursite dubsoise d'un côté et puis une pathologie là, qui s'est développée, qui s'appelle une endofibrose, une pathologie de l'artère de la jambe. Donc, ouais, effectivement, déjà, je partais pas sereine. Mmh.
Ton coach disait même que tu as failli ne pas prendre le départ de cette course à cause de ça.
Ouais, on s'est posé plusieurs fois la question, ouais. Ouais.
Qu'est-ce qui t'a fait prendre le départ? Tu avais confiance en ton corps finalement?
Alors, jusqu'à une semaine avant la course, je n'ai plus de douleur, donc ça c'était bien au niveau du psoas. Et en fait, l'endofibrose, cette pathologie artérielle, tant que je ne mets pas des efforts intenses, ça va. Et donc, normalement, en UTMB, oui. Je ne suis pas censée mettre des efforts intenses. Et en fait, moi, mentalement, c'est drôle, je crois que c'était la course où j'étais peut-être le moins prête physiquement, mais le plus prête mentalement. J'avais vraiment envie de faire cette UTMB, ça me tenait vraiment à cœur. Et je me suis dit, voilà, c'est pas grave si je ne fais pas le résultat. Espérer, enfin même si j'espérais pas grand chose, mais peut-être espérer du public ou des gens extérieurs, mais vraiment juste aller faire cette boucle pour finir cette belle année 2026 comme je le voulais.
Ah, c'est comme quoi le mental, hein, ça prend le dessus sur la forme physique par moment quand on est bien mentalement et qu'on a envie, on peut déplacer des montagnes, ouais.
Ouais, exactement.
Raconte-nous cette nuit, t'as été assez longtemps deuxième, puis juste avant Courmayeur, Courtenay décide de rendre son dossard. Puis voilà, tu prends assez vite les devants dans cette course-là. Tout se passe plutôt bien. Alors, on avait quelques insiders dans les points de ravitaillement qui disaient que tu tentais à chaque fois de te faire rassurer sur tes sensations et tes efforts pendant la course. Quel était ton état d'esprit à ce moment-là, à peu près à mi-course et pendant la nuit?
Mais je ne me sentais pas du tout à ma place.
Ah ouais, c'est ça. Tu nous disais, on avait les bonnes infos.
je me disais, mais... Elle va me rattraper. Et j'espérais qu'elle me rattrape parce que j'en ai vécu beaucoup en fait des courses ici à Chamonix, que ce soit mes deux UTMB ou ma CCC de l'année dernière. Et en fait, à chaque fois, je pars vite, je mène la course et en fait, et je me fais doubler à la fin de course. Et je voulais absolument pas reproduire ce scénario parce que pour moi, c'est ce qu'il y a de pire en fait. Et ouais, à chaque fois, ça m'arrive de me faire ouais sur les. L'année dernière, c'était encore pire. C'était même pas 8 km avant la fin de la CCC. Et puis ouais, les deux UTMB que j'ai fait, oui, à chaque fois je suis devant et je me fais reprendre et je m'étais convaincue que je voulais être la chasseuse et pas la chassée cette année, donc j'espérais absolument qu'elle me reprenne, mais bon, d'un côté je voulais pas non plus ronger trop mon frein et être sous
ton niveau actuel,
voilà, sous mon niveau actuel, donc c'était un peu ça mon état d'esprit. Et c'est vrai que j'aimais beaucoup un peu faire le chat à la souris avec Rachel Entrequin, qui est vraiment une athlète que j'admire, moi c'est mon idole,
qui a fini deuxième de la course.
Ouais, elle a fait une très belle course, c'est vraiment une fille trop chouette. Et donc du coup voilà, on s'est un petit peu c'était marrant, voilà, on a couru un peu ensemble, moi jusqu'à Courmayeur, et puis après j'ai fait la course et je voulais surtout pas savoir les écarts parce que ça aussi je l'ai appris de mes éditions précédentes. L'erreur que je fais souvent, c'est de rentrer trop tôt dans la compétition et c'est très long, et mentalement si on rentre dans la compétition à Courmayeur et qu'il reste encore 15 heures d'effort derrière, en fait mentalement à arriver à un peu plus tard dans la course,
c'est trop long, ouais.
On n'a plus envie en fait de se battre. Et donc je voulais absolument pas rentrer dans la compétition. Je me dis, je fais mon effort, je reste dans ma bulle. Si elle me dépasse, c'est que voilà, c'est qu'elle est en pleine forme, etc. Et on m'a commencé à me dire les écarts, ouais, plutôt vers Champé, Trian et Valenciennes.
À Valenciennes, justement, tu comptes 40 minutes d'avance devant Rachel, justement. À ce moment-là, tu dis, ok, c'est bon.
Non,
toujours pas.
Ah non, parce que mais j'étais là, dans un état assez lamentable. Bon, finalement, je me dis que beaucoup sont comme ça. Mais bon, mon entourage me dit, oui, mais tout le monde est comme ça. Mais j'ai envie de dire, moi, pire que les autres. Et heureusement, parce que finalement, en fait, rien n'est joué d'avance. Et quand je suis... la descente... pourtant, j'étais très, très bien dans les descentes jusqu'à l'avant-dernière descente. J'ai commencé un peu à être un peu plus en difficulté sur la descente de Valenciennes. Et vraiment, la descente de la Flégère, c'était pas du tout la même Blandine que toutes les autres descentes, parce que pendant toute la course, c'est vraiment là où j'arrivais à m'exprimer, où je prenais de l'avance. Et là, la descente de la Flégère, c'était un long chemin de croix. Et comme je dis, non, j'y croyais pas. Et même d'ailleurs, j'ai eu une chute là, quelques kilomètres avant l'arrivée. J'ai chuté. Bon, souvent les chutes, on se fait un petit peu sonner, on redémarre et on se dérouille un peu et ça va. Et en fait, là, j'ai revu la vidéo. Il y a une racine, d'arbre qui, je me suis cogné en fait la cuisse contre une racine d'arbre. Et en fait, un gros hématome. Là, d'ailleurs, j'ai fait une écho et j'ai effectivement une belle contusion musculaire. Et en fait, surtout en descente, du coup, on fait beaucoup plus contracter le quadriceps. C'était affreux. Et là, vraiment, j'ai joué le mental en me disant... Et là, j'ai repensé à Dodo et son mantra qui dit « La douleur est éphémère, mais la victoire est définitive. » Et je me disais « La douleur est éphémère. » Mais vraiment, j'ai vraiment serré les dents. Hein.
À la Flégère, on voulait presque descendre avec
elle. On voulait la porter, mais c'est interdit.
C'est clair. On avait peur pour elle à un moment donné quand on la voit chuter, notamment.
Ah oui, quand on la voyait, on l'a vu chuter à plusieurs reprises, on était sur l'écran là, juste à côté, et effectivement, tout le monde retenait son souffle, et d'un seul coup, il n'y avait plus un bruit. Elle se relève, ça va, elle repart, bon, ça va. Et c'était un moment stressant pour tout le monde. Hein.
Et après,
ça met les émotions.
Non, en fait, je l'ai fait exprès. Hein.
Oui, c'est ça.
J'ai fait exprès de chuter. Sinon, ça aurait été trop facile.
Sinon, c'était trop facile.
Et au final, tu chutes même 4 fois, si je compte bien. En tout cas, selon les images,
parce qu'en vérité.
Par le live.
Je suis tombée plusieurs fois, en effet. Et ce qui est drôle, c'est que je suis quelqu'un qui tombe tout le temps, normalement. Et là, je m'étais fait la réflexion. Oh, mais t'es pas tombée de ton UTMB. Mais c'est incroyable. Et en fait, je pense que j'ai chuté. Toutes les fois où j'ai chuté, c'était sur la dernière partie. Peut-être pas 4 fois, mais il me semble 2 fois, c'est sûr. Oui, dans la montée de la Flégère, ridiculeusement.
Tu prends un croche-patte.
Ouais, je me prends un croche-patte sur le pont, je descends, mais je me relève et je dis aux gens qui étaient à côté de moi, je dis, voilà, c'était lamentable comme chute.
Celle-là,
je me suis étalée comme une crêpe et c'est un peu pitoyable. Et il me semble que oui, peut-être je suis tombée 2 fois dans la Flégère, ouais, donc peut-être 3 fois.
Ton entraîneur disait justement qu'il pensait victoire presque acquise avant de te voir chuter, et là il a commencé à avoir une boule de stress.
Ah bah comme tout le monde.
Ouais, tu l'as ressenti toi quand tu le voyais au temps de passage ou pas vraiment? Il a essayé d'être très, très neutre là-dessus.
Quand il m'a vu chuter à la fin de...
Ouais.
En vrai, j'ai chuté et là j'ai senti la douleur qui... Je me suis mise à pleurer et j'ai dit à tous les... Parce que quand même, il y a plein de gens qui voulaient descendre derrière moi. Pareil, c'était super rigolo, ils étaient tous là en train de crier « Ouais, Blandine et tout !» Je chute.
Ouais, plus un bruit.
Gros blanc. Et là, je me mets à pleurer. Et là, je dis « Mais non, mais c'est pas possible. » J'ai cru que c'était la fin, quoi.
Ouais.
Je dis « Mais ça va pas se finir comme ça. Ouais. » Et au mental. Mais comme quoi... Comme quoi, c'est fou, rien n'est joué.
Rien n'est joué
d'avance. Et encore, ça va que j'ai chuté 4 km avant l'arrivée. Mm. Mais en fait, je me dis, une chute comme ça qui t'arrive en milieu de course, c'est fini, quoi. Mm. Et donc, ouais, c'est...
Mais il y a Ben Diman qui est tombé aussi. On a vu les images à 11 km de l'arrivée. C'est pareil, il avait une avance assez confortable.
Mm. Mais effectivement, j'ai chuté 4 fois. Parce que j'ai chuté effectivement au même endroit. Et il m'a dit, au Béchard... quand on reprend, quand on finit le Béchard, effectivement, j'ai chuté 4 fois parce que on m'a dit, c'est drôle parce que Baptiste et Ben ont chuté au même endroit. On est tous les trois au même endroit.
Et donc, t'imagines perdre la course alors que t'as mené pendant
jusqu'à 40 minutes.
Un peu plus d'avance.
Oui, il avait un peu plus d'avance. Mais s'il se fait mal, s'il se casse quelque chose ou si la tête tape sur le rocher. Ça peut être vite fin de course. Donc c'est vrai que ces courses là, ces ultras là, c'est ce qui fait la beauté de cet effort là, c'est que c'est jamais joué d'avance. Ouais.
Rachel te reprenait un peu de chemin, elle est arrivée jusqu'à 20 minutes d'écart avec toi. Est-ce qu'on te donnait les temps de passage ou est-ce que tu l'as compris que va falloir aller jusqu'au bout pour essayer de tenir cette première place.
Alors, on m'avait dit qu'il y avait 40 minutes à Valorcine, sauf que je la sentais bien plus costaud que moi en montée. Et je pensais pas que je descendrais aussi mal, parce que vraiment j'étais plutôt à l'aise jusque là en descente. Et à un moment, quand j'ai descendu, c'était un long chemin de croix. J'avais qu'une envie, en fait, c'est d'arriver sur la route de Chamonix, en fait, de finir tout en marchant. On me dit, comme ça, tu profites, tu fais tout en marchant. Et je me suis dit, non, je pense que quand même, faudrait pas que je joue au sprint parce que
là, je peux pas sprinter.
J'avais vu son arrivée après avoir fait plus de 400 km, la Coco Donna, qu'elle avait remporté victoire au scratch et record absolu aussi. Elle avait fini au sprint avec 400 km. Je me disais, je peux pas y arriver. Donc, j'ai essayé de trottiner, mais je savais qu'elle était pas non plus très loin et que je me doutais que c'est une fille qui fait de l'ultra endurance et qui devait être bien plus fraîche que moi.
Ouais, après, quand ils ont montré les images, ça m'a rassuré parce qu'elle était pas beaucoup plus fraîche que toi.
C'est la troisième, apparemment, qui revenait bien par contre.
Oui, par contre, ouais.
Incroyable, ça aussi. Elles ont qu'une minute d'écart sur 22 heures d'effort.
Une minute 30, quasiment. Sur 22 heures. Mais les écarts sont
comme
dingues,
le duel 3 des hommes, ouais. Hein, Baptiste.
C'est ultra serré, ouais, pareil.
T'as inspiré tellement de gens. Hier, on a fait des box pop avec les personnes qui étaient sur l'arrivée. On les voyait tous très émus. J'ai quelques petits messages à te montrer, et puis tu me dis ce que t'en penses.
Vous allez pas me faire pleurer. Hein.
On a lancé un clapping Blandine 10 minutes avant que t'arrives, et ça a pris. Hein. tout le public, toute la dernière ligne droite criait Blandine, Blandine, Blandine. C'était dingue.
On la verra en plateau demain. Est-ce que vous avez un message pour elle?
Ouais, Blandine, on t'a suivi toute la journée parce qu'on a fait tous les ravitaux, on t'a vu quasiment partout. Et respect à Blandine.
Tu aurais un message pour Blandine, justement?
Oui, dire à Blandine qu'on est trop fiers d'elle et qu'elle a fait une super course. Bravo, Blandine!
Bravo, c'est quand même formidable, c'est beau.
Oui, la même, on est trop fiers d'elle. En plus, apparemment, elle n'était pas à 100%, mais donc là, c'est d'autant plus beau. On est trop fiers d'elle. Trop d'émotion.
Donc franchement, bravo, tu nous as fait vibrer.
Magnifique ambiance, les gens la portaient, elle pleurait, une ferveur extraordinaire.
Félicitations, bravo Blandine.
Quelle émotion elle a fait passer à tout le monde.
Bravo Blandine, tu nous épateras toujours.
Yes.
Merci pour tout, vraiment, c'était incroyable.
C'était incroyable, on était tous au bord des larmes quand elle est passée.
Bah, c'est une fierté déjà de voir une femme faire ces temps-là.
Je la félicite, franchement bravo.
Une vingtaine de personnes qui te remercient, qui te voient comme une source d'inspiration de par ton abnégation, de par ta résilience, de par ta volonté à ne pas s'arrêter malgré la douleur, malgré la chute, malgré le froid de la nuit au Grand Col Ferret notamment. Tu as la sensation d'inspirer autant de gens, c'est aussi pour ça que tu cours?
Bah là hier j'avoue que c'est ce qui... Je pense que de tout, entre la victoire à l'UTMB et ça, cette... Ouais, cet engouement autour de ce que je peux inspirer, je pense que c'est plutôt ça dont je garderai le plus grand souvenir, étonnamment. Une victoire UTMB, mais pour l'instant, je ne réalise pas trop. Par contre, j'ai très bien réalisé
ce qui s'est passé.
Ce qui s'est passé autour.
Mais tes premiers mots ont été pour eux. Quand t'as passé la ligne et que le speaker t'a donné le micro.
Mais c'est dingue. Mais c'était fou. Enfin, je pouvais... Je ne pensais pas que je pouvais soulever autant de monde. Et là, votre petit... comment on appelle ça?
Reportage.
Le trottoir.
Micro-trottoir.
Moi, j'ai eu des mots comme ça, mais pareil, pendant tout le long, de gens qui disaient, mais t'es trop inspirante, t'es notre queen, on est trop fiers de toi. et moi, ça me fait rire parce que je ne me sens pas... Alors oui, effectivement, je fais de l'ultra et je suis résiliente, je suis persévérante, mais parmi toutes les filles qui sont... Enfin, les filles ou les gars, hein, mais je sais parce que je suis une femme, mais parmi toutes les personnes là, qui sont en train de terminer l'UTMB, bah pareil, moi je suis impressionnée. Et puis au final, moi j'ai eu que 22 heures d'effort. Là, il y a des gars, ça fait 35, 36
deux
heures.
Nuits dehors,
ils sont encore là, ils ont fait certains. Deux nuits dehors. Ouais. Donc finalement, je me sens pas si exceptionnelle que ça. Mais non, c'est. Ouais, c'est, ça fait. C'est, ouais, ça fait plaisir et c'est beaucoup de fierté. Ouais.
Ton parcours est aussi inspirant parce que tu débutes le trail assez tard. Nous, cette semaine, on a reçu des jeunes de 17-18 ans débuter ici, notamment à la YCC. Toi, tu débutes à 27 ans quand tu pars en internat ou en externat à La Réunion, notamment pour dans tes études de médecine. Raconte-nous un peu ton parcours et ce qui t'amène vers le trail pour ceux qui t'écoutent ici pour la première fois.
Oui, bah moi j'étais pas du tout d'une famille sportive, j'ai jamais été baignée là-dedans. Donc moi tout ce qui est compétition, etc. Je trouve qu'il y a beaucoup d'athlètes de haut niveau, même s'ils n'ont pas fait de trail avant, ils viennent souvent d'une autre discipline où voilà, ils sont baignés, ils ont passé les étapes des compétitions, ils ont été forgés à ça. Et des fois la plupart, voilà, c'est un souhait de faire du haut niveau. Moi ça m'a jamais traversé l'esprit de faire du haut niveau. De toute façon je ne savais même pas que j'avais des capacités physiques comme celle-ci. Et 2015-2016, ouais, je décide d'aller à La Réunion pour faire mes études de gynécologie. Et puis là, je découvre le trail, mais toujours pour le plaisir, pour aller juste faire des randonnées un petit peu plus rapides en courant. Je rentre après en métropole parce que je devais continuer mes études. Je savais même pas que ça existait, le trail ici. Je pensais que c'était le sport de La Réunion. Et après, quand j'ai compris, j'ai repris quelques dossards. En fait, ça allait super vite, 2019. Alors, j'étais complètement inconnue, j'avais aucun plan d'entraînement. Je deviens championne du monde. Et à partir de ça, 2019, tout s'est enchaîné très vite. Et j'ai commencé un peu à faire du haut niveau, mais ça a été dur au début parce que moi, ma vie n'était pas du tout orientée là-dedans. Moi, je voulais finir mes études, être gynécologue, faire de la chirurgie, avoir ma petite famille. J'ai un petit peu décalé tous ces plans, mais j'ai aucun regret.
Ah ouais. Et t'as gagné le Trail des Bastilles en 2018, qui est à côté de chez moi.
Ah,
si j'avais su, je serais venu t'encourager. Ouais.
Et bah, déjà, c'est quand
en 2018, ouais.
Voilà, quand je suis revenu de La Réunion, ouais. Et puis, en fait, il y a
des petits trails. Ouais, c'est pas vrai, le plus gros, c'est pas l'UTMB, mais bravo. Tu peux dire que t'as gagné le Trail des Bastilles.
Ouais, c'est ça.
Tu viens de Normandie, c'était pas le coin le plus dénivelé. Comment tu t'entraînais, justement, comment t'as réussi à te transformer en traileuse finalement?
Mais justement, en fait, j'ai vécu jusqu'à 25 ans en Normandie, mais je connaissais même pas le mot trail. Hein. Mon père, il appelle ça toujours du trek. Il dit ah bravo,
trek. Trek.
Non, on connaissait pas. Et d'ailleurs, ça me fait rire parce que maintenant que j'ai un petit peu plus de notions de trail, je vois effectivement en Normandie, il y a quand même des parcours trail. Ça a cessé de se développer.
Se développe.
Donc je sais pas si ça existait à l'époque où moi j'y étais.
Ah non, je pense
mais,
pas.
Non, c'est grâce
à toi.
Non, j'ai jamais foulé les pieds sur un sentier quand j'étais en Normandie. Je faisais un peu de course à pied, histoire de me défouler un peu, mais ça restait de la route. Et puis non, sinon, je disais que je faisais pas de sport, je faisais quand même de la gym, mais le vendredi de 18 à 20h avec toutes les copines. Et
Font-Romeu, c'est un bon spot alors pour se préparer?
Ah ouais,
là tu vas me rassurer. Bah ouais, c'est pour ça.
Ah, effectivement, j'ai un petit pédiatre là depuis 2 ans et j'adore, c'est pas très loin de chez moi du coup. Donc Font-Romeu, c'est un bon compromis. Puis moi j'aime bien cette petite ambiance à Font-Romeu entre sport au niveau, mais aussi je trouve que c'est une ville. Ouais, puis je trouve que c'est une ville qui vit toute l'année.
Complètement.
Donc, venez à Font-Romeu, c'est un bon endroit. Du plat, de la côte.
Ah ouais, l'appel est lancé. Comment est-ce que tu vois la suite pour toi? Évidemment, c'est très dur de se projeter après une telle victoire qui sonne un peu comme un objectif de carrière, gagner ici à l'UTMB Mont-Blanc. C'est quoi la suite? Est-ce qu'on construit un entourage particulièrement resserré? Est-ce qu'on se projette vers une autre course? Comment tu la vois?
Non, là, vraiment, j'ai envie de profiter de ce que je viens d'accomplir. Surtout que j'ai fait une saison en fait super pleine, enfin vraiment pleine. Je voulais faire Transvulcania UTMB, je les ai eu les deux avec des jolis chronos.
Rien que ça.
Alors, pour la petite parenthèse, on dit que j'ai eu le record de l'UTMB, mais je pense qu'il faudrait vraiment recalculer parce que c'était pas du tout les mêmes parcours. Mais bon, c'est quand même une belle performance tout de même.
21h54.
Ouais.
La première sur les 22
heures. Sous les 22.
Ouais, mais bon, je pense
que... Tu penses qu'il y a combien de...
Parce que vous n'êtes pas passé par
les
pierres
calcaires. Alors, c'est sûr qu'il y a 45 minutes. Ça fait à peu près 45 minutes, les pierres calcaires. Ouais. Mais en fait, il y a eu d'autres petits changements, notamment entre la Foulie et Champé, où normalement, on fait des balcons avec un petit peu de... C'est un peu vallonné. En fait, là, on a fait... toi, t'aurais aimé. On a fait presque 3 km de route.
Ah, magnifique.
C'était affreux.
Ah, voilà.
Mais bon, ça va bien plus vite, quoi.
Oui.
Donc, je pense qu'il y a quand même plus que 45 minutes. Faudrait demander à des experts.
Okay.
Ouais. Non, c'est pour ça. Cathy, quand elle a fait 22h13, l'année où il y avait les pyramides calcaires, elle, ça a été stratosphérique, sa performance. Et non, là, je veux...
Profiter.
Je veux profiter. Je veux, pour l'instant, pas me projeter. Voilà, j'avais plein des choses un peu personnelles et professionnelles que je voudrais mettre en place. Et au niveau sportif, pas me projeter, on va voir comment ça va venir.
Bah c'est beau comme
c'est magnifique, c'est magnifique. Là, vraiment... d'abord, il y aura la tournée médiatique, hein, je veux pas te faire peur, mais...
Ouais, je pense aussi. Bon, c'est sympa, c'est le revers de la médaille. Et puis bon, de toute façon, je pense que je vais pas courir pendant plusieurs semaines, donc il faut bien que je m'occupe.
Vu comment tu marches, effectivement, c'est mieux pour tout le monde de récupérer.
Merci beaucoup, Blandine, de nous avoir accordé ces quelques moments, de nous avoir partagé ton retour sur cette fabuleuse course. On te félicite encore une fois pour cette merveilleuse course. On a tous vibré.
C'était dingue.
Tous vibré.
Non, mais les images sur les réseaux sont dingues. Tout est...
Nous, on était positionnés un peu en balcon. On a pu voir une vue un peu prenante.
Je lui ai dit que l'année dernière, elle m'avait donné envie de faire du trail. Mais là, elle m'a donné envie de faire de l'ultra maintenant.
T'inspires vraiment tout le monde. Merci beaucoup.
Merci à vous.
C'est la fin de cet épisode. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver également ce podcast sur les plateformes d'écoute digitales et ensuite sur le YouTube RMC Running, où on vous prépare plein de surprises sur la deuxième partie de saison, notamment avec mon cher et tendre Johan Durand.
Ça sera un peu plus plat que que le trail. Il
paraît que ça fera 42,181.
Oui, là au moins on est sûr de la distance et du dénivelé, normalement c'est toujours pareil.
Et puis toujours pour finir, le même conseil, quand vous courez, souriez, ça aide à respirer.